Vanessa André et Sébastien Vétil sont installés à Guipry-Messac en Ille-et-Vilaine depuis 2012. Sur environ 60 hectares, ils élèvent 70 chèvres angora et une trentaine de vaches armoricaines. Les premières fournissent du mohair, qui sera par la suite transformé en vêtements vendus sur la ferme. Les secondes, quant à elles, sont élevées pour leur viande. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer où on est ici et puis décrire un petit peu votre ferme?
Alors, on est sur la commune de Guipry-Messac. On est en GAEC avec ma compagne Vanessa. Moi, je m'appelle Sébastien. Donc, on est installé depuis 2012 sur la commune de Guipry-Messac, en sachant que c'était une deuxième installation, vu qu'on a déménagé notre ferme donc il y a 10 ans. Et on a été paysan et paysanne pendant plus de 10 ans également, dans les Monts d'Arrée, dans le Finistère.
Et pourquoi être revenu en Ille-et-Vilaine?
Pour la galette saucisse. Non, je dis ça en plaisantant, mais Vanessa, t'étais la seule installée dans les Monts d'Arrée. On avait une petite structure, on travaillait sur une vingtaine d'hectares, donc on avait l'élevage de chèvres angora et déjà quelques vaches armoricaines. Et lorsque moi j'ai souhaité m'installer, on avait besoin de plus de foncier. Autour de notre ferme, c'était bloqué, c'était très difficile. Puis notre structure était pas très fonctionnelle, donc avec l'arrivée des vaches, on a souhaité avoir une structure plus groupée. Et donc on a décidé de revenir en pays gallo et de trouver une ferme plus fonctionnelle à proximité de Rennes. Ouais.
Et aujourd'hui, la disposition de la ferme, c'est quoi, enfin, au niveau de la SAU, du nombre d'animaux?
Alors, ça a été progressif. Quand on s'est installé en 2012, on avait 46 hectares. Et puis, on a repris une vingtaine d'hectares. Donc là, on est sur 66 hectares de SAU. Donc, on a deux ateliers d'élevage sur la ferme, les vaches armoricaines et les chèvres angora. On est en agriculture biologique, c'est des systèmes qui sont basés sur l'herbe et ce qui nous permet aussi de faire des cultures de vente, donc des céréales, mais qu'on dédie plutôt à l'alimentation humaine. Et donc, on a à peu près 13 hectares de culture sur la ferme. Cette année, par exemple, on a mis en blavet du blé panifiable et de l'orge brassicole.
Donc, vous avez des chèvres angora?
Oui.
C'est quoi les caractéristiques de cette race?
Alors, les chèvres angora, c'est la production principale, c'est le mohair. C'est une chèvre qui vient à l'origine de la région d'Ankara, en Turquie, d'où le nom angora. Et c'est une très très vieille race qui existe depuis le 4e siècle. C'est vraiment une ancienne race qui est présente un peu partout et qui a été présente en France au 14e siècle et qui a disparu avec les famines. Et dans les années 80, il y a des éleveurs qui ont remis en place une filière, qui sont allés chercher des animaux au Texas.
Et votre troupeau, il vient d'où alors?
Moi, mon troupeau, principalement, c'est une souche texane. Moi, j'ai un petit peu d'australienne aussi. Mais sinon, c'est assez local. Des Côtes d'Armor, de Bretagne, il y a des éleveurs un peu partout en France. Il y a une centaine d'éleveurs en France. En Bretagne, on doit être une dizaine, avec des éleveurs qui bossent pas mal sur la génétique. Donc ça me permet d'avoir des boucs intéressants au niveau de la laine.
Ouais, elles sont élevées comment?
C'est des ruminants, donc on leur fait manger de l'herbe. Elles sont pratiquement dehors tout le temps, sauf quand il n'y a plus d'herbe, donc en hiver. Les rations, c'est herbe et foin. On fait un petit peu de céréales pour elles. Il y a un hectare et demi de dédié pour les chèvres angora en mélange céréalier qu'on produit sur la ferme. On est en bio sur l'élevage aussi, avec des périodes de pointe au niveau des mises bas et au niveau de la tonte, quoi, puisqu'on les tond deux fois par an, une fois en février et une fois en août.
Je ne sais pas, Sébastien, si tu l'as dit tout à l'heure, combien il y a d'animaux, de chèvres sur l'exploitation?
Alors Vanessa, des chèvres, aujourd'hui, il y a à peu près 70 adultes, hein, et une vingtaine, 20-25 petits qui sont nés dans l'hiver,
ouais.
Ouais. Donc on...
On dit 70 chèvres pour faire vivre une personne. Donc ça, c'est aussi l'intérêt des chèvres angora, c'est que c'est très peu demandeur en foncier, puisque du coup, 70 chèvres, c'est quand même à taille humaine. C'est vraiment un atelier qui permet de faire vivre quelqu'un en prenant peu de foncier. Et donc ça, c'est quand même intéressant.
Et le quotidien d'un éleveur ou d'une éleveuse de chèvres angora, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui est chronophage On le disait un peu tout à l'heure, c'est des gros pics d'activité avec la tonte, etc. Enfin, ouais. Comment ça se passe?
Ben oui, c'est aussi un atelier intéressant pour ça. Au niveau de l'astreinte, on n'a pas la traite, puisque c'est les petits qui restent sous la mer. Donc c'est quand même une conduite comme des brebis allaitantes, un peu. Ça fait quoi? Ça fait 2 heures par jour d'astreinte au niveau de l'élevage, quoi. Voilà, c'est de faire des parcs journaliers, parce que je fais des parcs tournants. En fait, les chèvres, en général, c'est quand même assez technique comme conduite, parce que c'est très sensible au parasitisme. Il faut gérer le pâturage. Et moi, je fais du pâturage tournant, donc ça veut dire que je fais un parc tous les jours. Elle retourne jamais sur le même parc, enfin, au bout de quelques mois. Et on est en extensif, et ça permet de gérer le parasitisme, quoi, et d'éviter de vermifuger, parce qu'une chèvre, c'est très, très fragile, contrairement à ce qu'on pense. Et puis, ça trie beaucoup. C'est très difficile au niveau alimentation. On a besoin vraiment d'un foin de qualité pour produire de la bonne laine, et surtout les chèvres, de toute façon, si c'est pas bon, elles vont pas le manger, quoi.
D'accord.
Et au début, d'ailleurs, on avait pris des vaches pour ça, pour qu'elles mangent le refus des chèvres, et puis on s'est fait avoir parce qu'on a bien aimé les armoricaines.
Ah ouais, là-bas, c'était vraiment pour ça.
Ouais, c'était okay. Pour ça.
Les vaches passent derrière les chèvres sur les mêmes paddocks.
Ouais, c'est ça. Et en plus, on mixe le pâturage et ça permet aussi d'assainir le milieu et d'avoir moins de parasites. Donc ça, c'est hyper intéressant d'avoir les deux troupeaux, quoi. Chèvres et bovins, c'est très très complémentaire.
Tu disais tout à l'heure que il y a 2 tondes par an.
Ouais.
En février et en août.
Ouais.
Pourquoi c'est réglé comme ça? C'est justement par rapport au cycle de la chèvre, ou c'est parce que c'est...
Bah, de toute façon, c'est tous les 6 mois, donc parce que les animaux, on peut pas les tondre qu'une seule fois. C'est quand même vraiment des animaux qui produisent de la laine. Elles seraient pas bien si on les tondait pas déjà.
Ça fait combien par an?
Bah, 5 kilos en moyenne, quoi. Entre 4 et 6 kilos, ça dépend par an. Hein. Ouais. Donc en 2 tontes. Du coup, je sais plus ce que tu me disais.
Si oui. Pourquoi les tontes étaient hyper régulière, en fait.
Ouais. Les... Février, c'est juste avant les mises bas, parce que sinon elles sont tellement en laine que les petits ont du mal à trouver la tétine. Donc c'est pour ces raisons-là. Et puis c'est plus propre aussi au niveau de la vulve. Nous, ça va nous permettre d'y voir plus clair au niveau des naissances.
Ouais.
La deuxième, c'est au moment des saillies. Bah, de toute façon, après, c'est 6 mois plus tard, quoi. C'est au moment des saillies, voilà. Donc à l'automne.
D'accord.
Ouais.
Donc si on revient au mohair, alors là les gens vont pas voir, mais on est dans la boutique de la ferme, donc on est entouré de vêtements en mohair. Est-ce que Vanessa, tu peux expliquer les étapes en fait de la tonte jusqu'à la fabrication et la présence de tous ces articles dans la boutique?
On travaille en coopérative avec les autres éleveurs, et ce qui nous permet de valoriser nos produits, parce que on pourrait pas être en filière longue. On n'est pas compétitif, en fait. Et donc, nous, en France, on a fait le choix de faire du mohair de qualité pour pouvoir le vendre après en direct. Donc, sur la ferme, ça, c'est hyper important. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des chèvres angora. Alors après, toute la transformation, elle est suivie par la SICA Mohair, à laquelle je fais partie, et qui est responsable, de la transformation, de suivre les façonniers avec lesquels on travaille. On travaille avec une 15aine de façonniers. Donc, ça va du lavage, le cardage, la filature, le tricot, le tissage, la teinture. Donc voilà, il y a plein d'étapes avant d'arriver à un produit fini, et ça nous permet d'avoir une gamme de couleurs assez importante et une gamme de produits aussi assez importante, du fait d'être en collectif et de travailler avec des façonniers. Donc on travaille principalement en France, il y a juste la filature, le lavage, et en Italie, parce qu'il y a plus de... Enfin, en général, on privilégie les façonniers en France, mais quand il y a plus, on est obligé d'aller ailleurs, et c'est jamais très très loin. Là, c'est en Italie.
Et l'éleveur reste propriétaire de sa laine du début à la fin, donc la quantité d'articles là qu'il y a là, ça reflète ce qui a été fourni à la coopérative.
Ouais. La qualité et la quantité que moi je fournis à la coopérative est représentée sur tous les produits. En fait, je retrouve ma quantité et ma qualité de produits. On mutualise la transformation, mais il y a un tri. Le tri est super important. Donc il y a un expert trieur qui retrie notre laine qu'on a déjà triée dans nos fermes tous. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui vérifie notre tri. Et ensuite, tout est mutualisé, tout est mélangé, et on fait transformer tous ensemble. Et on retrouve effectivement le fruit de notre travail quand même, même si c'est pas que notre laine dans nos produits.
Oui.
On retrouve le fruit de notre travail. Ouais.
Et la production nationale de mohair, c'est combien par an?
Eh ben, ça doit être 15 tonnes. Ça doit être 15 tonnes maintenant. Ouais.
Ok.
Ouais.
Ça fait quelques vêtements quand même.
Ouais, ah bah oui, parce que du coup, un pull, faut compter à peu près 500 grammes pour un pull. Donc, ça fait quand même quelques pulls, quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, quels articles on peut retrouver dans ta boutique?
Donc, ça va de la chaussette, les pelotes, pour les gens qui tricotent, il y a des écharpes, des étoles, des plaids, des couvertures. Voilà, il y a une gamme très, très grande, des ponchos. Voilà. Et après, on travaille aussi avec deux tricoteuses locales qui tricotent pour moi. Donc, tout ça, c'est tout ce qui est tricoté main. Donc, les gens aussi, ils peuvent trouver des tricots main et des pulls tricotés à la main et faire des commandes, quoi.
OK.
Ouais.
On l'a dit tout à l'heure, il y a aussi des vaches armoricaines sur l'exploitation. Est-ce que tu peux nous parler de cette race?
Alors, la vache armoricaine, elle n'est pas connue de tous, hein, je pense, même dans le milieu paysan aujourd'hui. Je suis pas sûr que tout le monde ait connaissance de cette race, parce qu'elle a vraiment failli disparaître. Donc en Bretagne, historiquement, on avait plusieurs races locales. Aujourd'hui, il en reste quatre. La Bretonne Pinoire, la Froment du Léon. On va parler aussi de la Nantaise, on va quand même la mettre dans la Bretagne sur ce coup-ci. Et puis la vache armoricaine, ouais. Donc c'était l'armoricaine, une race plutôt qu'on retrouvait dans le centre Bretagne et dans le nord Finistère, et qui est pas si ancienne que ça. En 1870, hein, c'est parti du Finistère, on avait des gens qui travaillaient sur la sélection, déjà, sur la génétique, et ils avaient voulu un peu améliorer le gabarit des vaches bretonnes, qui étaient plutôt petites, et pour cela, ils ont croisé sur une race qui a aujourd'hui disparu, qui s'appelle la Pierrouge de Carhaix. Ils ont fait venir des taureaux Durham, hein, qui sont d'origine anglaise, qui apportaient du gabarit et du gras, parce que le gras était très important pour l'époque, et donc ils ont fait ces premiers croisements en 1870, et la race a été fixée au Herdbook en 1920. Donc, il a fallu 50 ans pour créer la race. 1920, donc c'est pas si vieux que 100 ans. Mmh. Ensuite, elle a connu un développement assez considérable, vu qu'on a comptabilisé en 1960, c'était le pic de l'effectif, 360 000 armoricaines en Bretagne. Et du fait, on va dire, de la modernisation de l'agriculture, de la spécialisation des races pour faire du lait, de la viande, de l'arrivée du maïs dans nos campagnes, les races locales mixtes ont périclité et disparu. Et l'armoricaine a vraiment failli disparaître, parce qu'en 1990, c'est un chiffre qui est assez choquant, on est passé de 360 000 vaches à 20 vaches. Et donc, sans le travail de quelques personnes qui ont voulu la sauvegarder, faire ce premier inventaire et retrouver des doses de taureaux qui ont permis de relancer, de refaire des petits, quoi, des petites femelles et des petits mâles, elle aurait disparu, quoi.
Il y a combien de vaches armoricaines en Bretagne maintenant? C'est remonté à combien?
Et il me semble qu'au dernier inventaire, on devait être à 650 mères.
D'accord.
Voilà. Et nous, quand c'est installé, il y avait qu'une centaine de mères, parce que les premières armoricaines sont arrivées en 2006 sur la ferme. Et je me rappelle de femelles à être vendues, voilà, pour d'autres éleveurs. Je crois qu'il y en avait eu 14. Donc c'était très compliqué de trouver des vaches. C'était quasi impossible de pouvoir s'installer directement avec un troupeau. Donc nous, on a acheté deux premières vaches. Ensuite, deux autres. Okay. Et puis, on a développé le troupeau à partir de ces quatre vaches. On n'en a pas acheté d'autres. Et donc, ça a été très progressif. Mais ça allait être de fait, vu que c'était très difficile de trouver des femelles. Aujourd'hui, c'est plus facile, mais ça reste compliqué, ouais.
Et comment elles sont élevées, justement, sur l'exploitation?
Alors, c'était aussi un peu dans notre logique, l'arrivée des armoricaines et enfin la volonté d'en faire un élevage, c'est que on voulait de la simplicité. Et donc on est dans un système très simple d'élevage. Donc les vaches armoricaines ne mangent que de l'herbe et du foin, et globalement sont dehors toute l'année. Il y a que les jeunes qui sont enfermés dans une petite stabule, plus pour le sevrage et la docilisation. Okay. Mais globalement, avec des vaches armoricaines, on peut faire de l'élevage plein air intégral. Et c'est quand même intéressant, parce que souvent, les difficultés en vaches allaitantes, c'est tout le besoin structurel autour, en investissement de bâtiments, matériel, etc. Et c'est vrai qu'en vache armoricaine, c'est très, très léger. Donc, on arrive à avoir des coûts de production qui sont quand même assez intéressants, et montrer aussi que avec des vaches allaitantes aujourd'hui, avec 30 mères, on peut tirer un revenu. Ouais.
Ok. Et pour finir, je peux vous poser la question, qu'est-ce qui aujourd'hui vous rend le plus fier de votre travail, à tous les deux ?
Ah bah déjà de pouvoir continuer à travailler en couple, ouais, au bout de 20 ans, c'est quand même une sacrée aventure. Et comme vous avez expliqué, voilà, il y a eu un déménagement, il y a eu beaucoup, ça on n'en a pas parlé, mais voilà, la vie d'une ferme est souvent mouvementée. Et notre fierté, finalement, c'est bah, par rapport à ce parcours, c'est de toujours être là, paysan et paysanne plutôt heureux de notre métier. D'accueillir des stagiaires, ça c'est vraiment une fierté aujourd'hui, c'est de pouvoir accueillir du monde et de transmettre notre savoir-faire, vu que nous on a bénéficié de ça à l'installation, et c'était très important parce qu'on était sur des productions peu connues, donc c'est vraiment auprès des paysans et paysannes qu'on s'est formé. Donc aujourd'hui, on essaye de donner la pareille, et on a plusieurs stagiaires qui sont aujourd'hui installés, qui sont devenus des collègues, et ça, c'est une très, très grande fierté. Et puis aussi, c'est pas de rester dans notre carcan en vente directe, en circuit court et dans notre petit truc, c'est que on essaye aussi par des investissements syndicaux ou autres de promouvoir notre métier et de montrer que y a une autre agriculture qui est possible aujourd'hui, où on peut être bien dans sa peau, vivre décemment de son métier, et puis surtout d'être bien intégré dans son territoire et d'avoir tout un tas de perspectives collectives. Comme je vous disais, on est dans plein de magasins de producteurs, de structures, et de montrer qu'il y a tout un dynamisme et que c'est pas foutu, quoi. Aujourd'hui, l'agriculture est importante et vitale, et voilà. Et il faut qu'on arrive à porter ça. Donc, c'est une certaine fierté quand même de pouvoir porter ça collectivement. Ouais.
Donc, le nom de la ferme, si les gens veulent vous retrouver, tous les deux, c'est...
Cabriolaine. Ouais, le GAEC de Brantadé.
D'accord.
Voilà.
Et donc, sur le site internet, si on tape Cabriolaine
sur... ouais. On retrouve le site internet.
Super, trop bien. Merci à tous les deux, en tout cas.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Et vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBcast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois !